Un cadavre découpé finit toujours par livrer ce qu'il a dans le ventre. Du moins pour cet expert qui porte la lourde responsabilité de retracer les faits et d'orienter l'enquête dans le cas d'une mort suspecte. Je me présente, docteur Charles Paul, médecin légiste.
Le docteur Charles Paul était le médecin légiste de son époque. Au début du XXe siècle, c'est lui qui incarnait la médecine légale. Également appelé le docteur Monopole, il a travaillé sur les plus grosses affaires, qu'elles soient politiques ou criminelles. Il a notamment participé à la résolution d'enquêtes des plus connues, comme la bande à Bonneau ou encore Landru, ainsi que le docteur Petiot. Son arrière-petit-fils, Guillaume Pitard, a alors décidé d'en faire un documentaire sur l'histoire de l'homme aux mille autopsies. Originaire de la région, et plus précisément de Vieux-Moulins, dans l'Oise, à 10 km de Compiègne, nous avons pu rencontrer le réalisateur pour une interview. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors à la base, le docteur Paul, avant toute sa vie, toutes les autopsies, il était originaire d'où ? Elle ressemblait à quoi sa vie avant ?
Donc le docteur Paul est originaire de Boulogne-sur-Mer. À l'origine, c'est là où il est né. D'une famille de magistrats, en fait, majoritairement magistrats, même s'il y avait une partie de la famille qui était plus orientée vers la médecine. Et donc, il a réussi à équilibrer, j'ai envie de dire, ces deux aspects familiaux par le biais de la médecine légale.
Sur la Terre, il existe trois sortes d'hommes dont le rôle est de connaître les secrets d'autrui. Le juge lorsqu'il interroge, le prêtre lorsqu'il confesse, et le médecin légiste lorsqu'il dissèque. Les deux premiers peuvent être trompés, mais au dernier, on ne ment pas.
Est-ce qu'on peut dire que médecin légiste, c'est un peu être détective ?
Oui, il y a une forte notion de détective et de recherche, essayer de retracer non pas les circonstances de la mort finalement, mais les derniers instants de vie de la victime. Et c'est une manière d'essayer de lui rendre la parole. Hein. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'art de faire parler les morts et qu'il a été surnommé notamment l'homme qui parlait avec les morts ou le médecin qui parlait avec les morts.
Je mobilise alors toute ma science pour déterminer les circonstances de son décès. Et quand je n'y parviens pas, il m'arrive de m'emporter, de bousculer et d'enguirlander mon patient. Bougre de bougre, vas-tu me dire de quoi tu es mort ?
Je pense que le plus difficile, c'était plutôt de réussir à faire face aux pressions autour des grandes affaires, en fait. Il y a eu quelques scandales dans des grandes affaires médico-légales qui l'ont donné l'opportunité de faire sa place. Et lui, ce qui a fait aussi sa réussite, c'est sa capacité à vulgariser, à expliquer aux gens tout en prenant des pincettes aussi, en utilisant le conditionnel, etc. Ce qui a fait la différence avec les autres médecins légistes de son époque, qui devaient sûrement être aussi très bons d'un point de vue technique, c'était sa capacité à se faire comprendre et à communiquer avec toutes les personnes dans un tribunal. Il avait eu pas mal de surnoms, docteur Monopole, il était surnommé aussi le loustique macabre, il était surnommé l'homme aux 100 000 autopsies. C'était une tradition de mettre en avant le nombre d'autopsies qu'ils avaient effectuées avant, et déjà ceux qui étaient avant lui mettaient déjà ça en avant comme une preuve de leur savoir-faire et de leur compétence. Sauf que il a un peu explosé tous les records. Ça a été l'inflation avec le docteur Paul. Surtout qu'il a été en place pendant près de 60 ans. Grosso modo, de début 1900-1910 jusqu'à 1960. Et il a autopsié jusque 3 jours avant sa mort. Donc c'est assez conséquent.
Donc il a appelé l'homme aux 100 000 autopsies, comme vous l'aviez dit. Il en a vraiment réalisé 100 000 ?
Alors ça, c'est un vaste débat. Visiblement, d'après un journaliste, il en aurait même fait près de 160 000. Après, ça part sur une moyenne de, si je calcule bien, je crois, de 6 ou 7 autopsies par jour. Concrètement, c'est pas impossible, mais il devait sûrement aussi jouer un petit peu des chiffres, dans le sens où c'était pas des autopsies complètes. Il devait aussi y avoir une part de rapport, tout simplement de constat de décès ou d'autopsie plus rapide. Donc, visiblement, d'après ses archives, il a dû arriver à ce chiffre-là. Enfin voilà, je pense qu'il y a peu de gens qui ont vu autant de morts que lui dans leur vie. Ce qui a sûrement pesé aussi dans le fait que ça soit un aussi bon vivant.
Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était un bon vivant. Outre son travail, justement, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on pouvait décrire cet homme ? C'est vrai qu'il voyait des choses qui ne sont pas faciles à voir. Est-ce que ça l'a impacté d'une certaine manière ou pas ?
Eh bien justement, je pense que c'est une question d'équilibre. Quand on est constamment face à la mort, ça donne encore plus du goût à la vie, tout simplement. Ce qui a fait qu'il a été autant apprécié, c'était que justement, c'était quelqu'un de très jovial, de très drôle. Il était connu pour ses mots de ses traits d'esprit et ses mots d'humour. Et que, et voilà, à côté, c'était un gastronome.
Guillaume, je vais te préparer un homard à la Dr Paul en honneur de ton arrière-grand-père. Pour le côté macabre, je le coupe en deux.
Est-ce qu'il y a, il arrivait encore à s'émouvoir avec tout ça? Est-ce qu'il y a des autopsies qui l'ont touché, qui l'ont marqué?
Oui, alors il y a notamment l'affaire Pétiot qui a été un peu le grand couronnement de sa carrière après toutes les grandes affaires qu'il a eues, hein, parce qu'il y avait quand même, comme je disais avant, Bono, Landru, l'affaire Stavisky aussi, qui était énorme aussi pendant l'entre-deux-guerres. Mais l'affaire Pétiot, ça a été quand même un grand scandale, et ça fait partie des affaires là où il a été un peu choqué par l'attitude du condamné. Première chose, le docteur Pétiot était médecin, déjà. Il profitait de la confiance que lui accordaient ses potentiels patients. Et en plus, il se faisait passer pour un passeur, en fait. Il servait de la Seconde Guerre mondiale pour faire miroiter à ses futures victimes un passage en Amérique du Sud. Et en fait, sous couvert d'un vaccin ou d'une prise de sang, il les empoisonnait. Et ils se débarrassaient d'eux en récupérant toutes leurs affaires. Donc déjà, le fait que ce soit un médecin, ça a déjà choqué particulièrement le docteur Paul. Il s'est même demandé si ça n'avait pas pu être un de ses élèves. Une des premières choses qu'il a constatées dans les victimes du docteur Pétiot, c'était des traces d'incisions dans les cuisses de ses victimes. Or, c'est une technique de médecin légiste durant l'autopsie, pour éviter de poser son scalpel ou de le perdre ou de le faire tomber, c'est de le planter dans la cuisse, tout simplement, de son patient, même si ça n'a pas l'air très délicat dit comme ça. Mais quand il a repéré ses traces, effectivement, il s'est dit « Mon Dieu, ça doit être un médecin, et c'est peut-être un de mes étudiants ». Parmi les rares fois où il perdait son sang-froid lors de ses présentations au tribunal, c'était souvent autour des affaires qui mettaient en avant des morts de très jeunes enfants.
Est-ce que, notamment avec l'affaire Bono, il me semble, il a déjà dû autopsier des gens qu'il connaissait personnellement ?
Alors, effectivement, il y a eu dans l'affaire Bono l'inspecteur joint qui connaissait personnellement, dont il s'est retrouvé à faire l'autopsie. Et en plus, il aurait même dû être présent avec lui au moment où l'inspecteur s'est fait tirer dessus par Bono. Donc déjà, il estime avoir échappé à la mort de peu à cette occasion, et c'est pas la seule. Et en plus, il se retrouve à faire l'autopsie d'une personne qu'il connaissait personnellement, et visiblement, c'est quelque chose qui devait être... ou qu'il est toujours extrêmement difficile pour un médecin légiste.
Guillaume Pitard est un habitué. Il s'agit de son 6e documentaire. Il avait déjà travaillé auparavant sur l'histoire de Paris souterraine, mais aussi sur les forêts de Compiègne. Il nous explique comment il a procédé pour construire le film et trouver toutes ces informations sur le docteur Paul.
J'ai dû chercher déjà pas mal dans les archives familiales, parce qu'il nous reste pas mal de choses, mais qui concernent plus sa vie personnelle. Et puis à côté, ben écoutez, j'ai cherché toutes sortes de documentations. Je me suis improvisé historien, en fait, archiviste, à aller chercher à la BNF, sur les sites internet, en passant par Retro News et d'autres sites spécialisés. Rapidement, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas tout lire toutes les mentions du docteur Paul durant sa carrière. Je savais qu'il était très connu de son vivant et qu'il a été oublié, on va dire, depuis. Mais je ne m'en rendais pas compte
de ce que ça représentait en termes de documentation, en termes d'archives.
Voilà, ouais. En fait, et j'ai eu la confirmation après par un historien pour lequel j'ai travaillé. Il m'a dit, mais non, mais ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe sur plusieurs années. Quand j'ai commencé les recherches, j'ai commencé à prendre contact avec pas mal de personnes spécialisées. Et je suis tombé sur une dame qui l'avait connue, qui m'a appelé des États-Unis. Et cette dame l'avait rencontrée 3 fois, en gros, quand elle avait entre 9 et 12 ans. Elle avait gardé un souvenir absolument impérissable de lui. Pourtant, elle l'avait vu que 2-3 fois. Il lui avait offert un petit médaillon qu'elle porte encore autour de son cou aujourd'hui. Avec son regard d'enfant et avec le recul, elle me dit, pour elle, et je pense que même en général, de toute façon, j'ai eu confirmation par les historiens, elle me dit que c'était l'équivalent de Winston Churchill en France, en termes de popularité et de personnalité surtout.
Alors tout ça, c'est une histoire familiale. Votre grand-mère, elle a conservé des souvenirs du docteur Paul. Est-ce qu'il y a des objets qui vous ont, vous, marqué ?
Oui, alors tout vient de ma grand-mère, en fait, hein, au départ, parce que c'est vraiment elle qui me racontait des histoires complètement dingues sur lui. Et donc, et c'est elle qui a gardé un petit peu en mémoire la plupart de ces objets. C'est elle la première aussi qui a contacté un médecin légiste, historien, écrivain qui s'appelle le docteur Bernard Marc, qui a participé très activement au film et qui m'a beaucoup aidé, qui a déjà consacré 2 livres aux grandes affaires du docteur Paul. Et dans les affaires que j'ai pu récupérer du docteur Paul, il y a notamment sa boîte à autopsie et également le stylo de Landru, la plume de Landru qui lui a été offert suite à l'affaire et quelques autres objets. Étonnant.
Le stylo, par exemple, il avait le droit de garder des pièces à conviction comme ça ?
Aujourd'hui, c'est sûr que ça paraît étonnant. À l'époque, visiblement, c'est un cadeau qui a été fait tout à fait officiellement hein, pour le remercier de ses travaux qui étaient vraiment expérimentaux. Pour le coup, l'affaire Landru, c'est une des premières affaires là où la médecine légale ne se contente pas juste de constater, mais va chercher, va expérimenter pour essayer de démontrer, de trouver des preuves.
Le documentaire a été un franc succès pour les spectateurs qui s'étaient rendus à l'avant-première du documentaire « La dernière autopsie du docteur Paul ». On écoute des témoignages récoltés au Majestic de Compiègne, dans l'Oise.
Je suis encore toute... je suis bizarre parce que j'ai vraiment apprécié le reportage. Et comme j'ai ma grand-mère qui était aussi de la Somme de Montdidier, ça m'a touchée. Et puis de voir la vie de cet homme... Et j'espère que Guillaume, son petit-fils, fera une autre série sur sa famille. Mais franchement, je suis encore toute retournée. J'ai adoré.
J'ai trouvé que c'était très intéressant. Conté d'une manière remarquable, avec des super témoins. Donc on apprend plein de choses. C'est bien illustré. La musique est vraiment bien. Donc on a passé un très bon moment.
Moi, je trouve ça passionnant de découvrir comme ça une personnalité qui a vécu dans le coin. Et qui avait un métier incroyable et une personnalité incroyable aussi. Donc je suis très contente d'avoir vu ce documentaire. Et c'est toujours intéressant de découvrir la petite histoire dans la grande histoire.
Pour les curieux qui aimeraient découvrir ou redécouvrir le film, il est disponible gratuitement sur France Télévisions. Docteur Charles Paul, le médecin légiste du 20e, un reportage d'Axel Corby pour Radiographite.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.